Bonjour à tous. D'abord, vous remercier pour votre soutien tout au long de ces semaines. Et des fois, on parle des tempêtes dans nos vies, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, jusqu'à ce qu'on traverse véritablement les tempêtes. Donc, il y a 4 semaines, j'ai quitté cette salle sans savoir que j'entrais dans une phase de maladie et de perte physique. Et donc, j'ai senti vos prières et votre affection tout au long de ces semaines. Et ça a été important pour moi. Vous savez, quand on est seul à l'hôpital, et certains le savent au milieu de nous, quand on ne sait pas ce qu'on va devenir, notre foi nous permet là aussi d'élever nos yeux, mais de se savoir entouré par l'affection, la tendresse de ceux qui font partie du corps de Christ, et que ce ne soit pas simplement des mots. Que ce ne soit pas simplement des mots, mais une réalité, bien c'est important. Et il y a 15 jours, j'étais chez moi, essayant de me reposer, un dimanche matin, et j'ai appris le décès brutal de ma petite sœur. C'est enclenché une nouvelle phase. Pas facile. Et là aussi, simplement les petits mots, les attentions, l'affection de l'Église, c'est quelque chose qui est important. Et quand je pense à l'Église, je me dis que je suis, et je l'ai dit souvent, je le disais une fois à Biba et elle souriait, elle me disait « mais non, c'est pas vrai ». Mais je disais avec Francine, qu'est-ce que c'est bon d'être dans votre Église. Eh bien, c'est aussi une réalité dans les moments difficiles. Alors ce matin, Francine n'est pas là, puisque on a dû assister aux obsèques de ma sœur et au cimetière vendredi. Il pleuvait quasiment, il gelait. Et dans le vent et la pluie, elle a attrapé froid. Donc là, elle est elle aussi alitée. Et je compte sur vos prières pour l'entourer là aussi et lui permettre de se relever. Voilà, des temps pas facile, mais qui font partie là aussi des chemins que Dieu nous donne de vivre. Et cela avec cette assurance qu'il est fidèle et qu'il est à côté de nous. Alors, merci pour cela. Je redis, le dernier culte où j'ai été présent il y a 4 semaines, Christine a lu le psaume 103 qui m'a accompagné, mais vraiment tellement pendant ces 4 semaines. Je pensais il y a 4 semaines que c'était un psaume qui s'adressait uniquement à ce que je vivais en termes de difficultés de santé. Et bien ce psaume-là, quand je l'ai lu pendant 15 jours et que j'ai appris la perte de ma sœur, mon beau-frère m'a dit « Écoute, Frédéric, sa femme, on ne sait pas où on était avec Dieu. » Elle en parlait très peu. Parfois par réaction vis-à-vis de son grand frère qui était chrétien, le premier chrétien de la famille, etc. Et elle en parlait peu. Mais son mari, Denis, m'a dit « Je ne peux pas imaginer des obsèques sans qu'il y ait la parole de Dieu qui soit apportée. Est-ce que tu veux bien l'apporter ?» Nous étions 8 frères et sœurs avec les conjoints. C'était pas facile de dire oui et c'était pas facile de dire non. Et j'ai repris un verset du psaume 103 que Christine a apporté il y a 4 semaines. L'homme est comme la fleur des champs qui fleurit. Le vent se lève et elle n'est plus. Et j'ai pu pendant 10 minutes apporter un temps de méditation sur le sens de la vie, sur aussi le sens de la vie sans et avec Dieu. Et ça a été un moment, je pense, qui moi, en tout cas, m'a fait du bien. Et puis, 120 peut-être personnes qui étaient là, et pour lesquelles ça a pu être aussi quelque chose qui fasse écho. Vous voyez comment une parole donnée un dimanche dans ce lieu ici a pu ensuite ricocher à l'hôpital de Lorient, et puis ensuite dans un espace où des hommes et des femmes était dans la tristesse de la perte. Alors, voilà, on vit l'Église ensemble. Merci de votre présence et de votre fidélité. J'ai proposé à Michel, cette semaine qui vient de se passer, de partager la parole avec vous ce matin. Alors, j'ai choisi un texte que j'ai partagé avec vous le 10 juin 2012. Il y a prescription, ça va? Mais c'est un texte que j'ai relu récemment et que j'avais envie vraiment de partager pour nous encourager en tant que, à la fois Église, mais aussi individu. C'est la sixième lettre que l'apôtre Jean a adressée dans l'Apocalypse à l'Église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que te dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ça, c'est le dernier verset qui m'est le plus difficile à lire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous le dis tout de suite, suite à mon problème de santé, j'ai perdu l'audition de toute une oreille droite, plus le sens de l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez me voir tituber. Je n'ai rien bu, je ne suis pas rempli de vin doux. Et je ne vous entendrai plus de l'oreille droite. Donc, pour l'instant, tant que le Seigneur n'a pas accompli une guérison ou que les choses évoluent, en tout cas, je vais continuer à avancer comme cela. Donc, que l'oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai arrêté ma lecture du livre de Job parce que sur mon lit d'hôpital, il y avait toute une partie qui parlait de l'écoute. L'écoute de Dieu, entendre, écouter, et à un moment donné, ça m'a lassé. Mais je vais reprendre la lecture du livre de Job. Cette lettre à l'ange de l'église de Philadelphie fait partie d'un ensemble de lettres de cette église auxquelles l'apôtre Jean s'adresse. On est à un temps où l'apôtre Jean est un des derniers, il est à la fin de sa vie, un des derniers à témoigner ou à directement de ce qu'il a vu et entendu. Voyant la croissance, le développement de l'œuvre de Dieu et de l'Église par la proclamation de l'Évangile, les autorités romaines et l'empereur en tête ont décidé d'enfermer Jean, qui était vraiment le dernier apôtre survivant, puisque c'était aussi le plus jeune au moment où il suivait Christ. Eh bien, il a décidé d'enfermer, de consigner l'apôtre Jean sur une île, en se disant, on va être tranquille, là, sur l'île de Patmos, un peu comme plus tard les Anglais ont fait avec Napoléon à Sainte-Hélène, eh bien, il s'est dit, on va plus avoir d'ennui avec lui. Et c'est là que le Saint-Esprit est intervenu, est tombé sur l'apôtre Jean, et lui a révélé non seulement ce qui était, mais ce qui deviendra, ce qui sera l'Apocalypse, c'est-à-dire les temps de la fin. C'est-à-dire que les tentatives des autorités humaines pour empêcher le Saint-Esprit d'agir ont totalement échoué. Et l'auteur du quatrième évangile a donné un livre de révélation, une apocalypse, c'est-à-dire une ouverture sur les temps à venir et comment l'œuvre de Christ s'accomplira jusqu'à la fin que l'adversaire n'a pas pu empêcher. Et ça, c'est quelque chose déjà qui est étonnant. Et puis, l'apôtre Jean s'est adressé à cette église, le Saint-Esprit lui a dit, eh bien, envoie, écris écris ce que je vais te révéler et envoie-le à cette église. Et cette église, c'était des églises qui existaient déjà. Il y avait cette assemblée déjà constituée du fait du ministère de Jean, mais aussi de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, etc. Et elles étaient de cette époque-là. Et les sept lettres aux églises qui sont écrites par révélation faite à Jean sont sept lettres qui s'adressent d'abord à des envoyés qui viennent voir Jean sur son île et qui repartent avec ce message pour leurs églises, mais des messages qui sont vraiment adaptés à chaque église. Les sept églises en question sont des églises très différentes. Mais on peut dire aussi que ce sont des profils de l'église en général à cette époque-là et aujourd'hui. Des églises fidèles, infidèles, partagées, mais des églises différentes. Et si vous lisez cela, vous pouvez dire, dedans, on va peut-être retrouver aussi l'église de Kevin. Parce que l'église de Kevin, elle a ses forces, ses fragilités. Et certainement que dans ces lettres aux églises, nous retrouverons des points qui nous concernent. C'est rassurant que ce soit que du collectif, hein, finalement. Si jamais dans les lettres aux églises, c'était aussi un message qui s'adressait à nous, méfie-toi parce que tu es mort, alors que tu te dis vivant, on se dira « oulala, oulala ». Et pourtant, lire les sept lettres aux églises, c'est aussi lire des profils de chrétiens que nous pouvons être ou que nous sommes. Alors comment se laisser interpeller par le Saint-Esprit ? Dans chaque lettre, il y a le destinataire qui est présenté. Il y a aussi ensuite, quand il est dit, écrit à l'église de Philadelphie, juste après, il y a une présentation succincte de celui qui est l'auteur de la lettre. Et une présentation différente pour chaque église, parce que je crois que chaque église a besoin d'une révélation particulière de Christ, du Seigneur pour elle-même. De la même manière que, si je regarde Christine et sa voisine, j'ai envie de dire que le Seigneur a certainement une révélation pour l'une et pour l'autre. Particulière, pas identique. De la même manière qu'en ce moment, le Seigneur me parle d'une manière tout à fait particulière. Et j'espère que vous ne prenez pas, l'annonce de l'Évangile uniquement en fonction de ce qui est collectif, mais bien de ce qui est d'une dimension personnelle et individuelle. Dieu me parle à moi et il se révèle à moi. Voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de la vie, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Il le dit qu'à l'église de Philadelphie. Aux autres églises, il se présentera différemment. De quelle manière Dieu te parle aujourd'hui ? À toi. Qu'est-ce qu'il te dit de personnel pour se révéler à toi ? Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Je te connais. Je te connais. C'est ce qu'on a entendu dans une parole tout à l'heure. Je te connais. Mais là, Dieu à Philadelphie dit : je connais. Je connais qui tu es. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît et qu'en fonction de qui il connaît de toi, ce que tu es, il veut te parler de manière personnelle ? Est-ce que tu sais que toi, église de Kevin, tu n'es pas l'église de Lorient, tu n'es pas celle du Havre où j'étais, tu es celle qui est ici et Dieu veut te parler aussi de manière précise et personnelle. Dieu est le Dieu du « moi ». De ce que je suis, chrétien, église. Après, il fait des promesses à cette église. Et puis ensuite, il apporte une parole d'espérance et d'exhortation. Toutes les lettres aux sept églises sont construites de la même manière. J'aime beaucoup que je m'étais arrêté une fois dans une prédication sur « à celui qui vaincra », qui est aussi... Un leitmotiv qu'on retrouve dans les lettres de cette église, et j'avais surveillé l'entrée d'une église où je devais prêcher sur ce thème-là, à Paris, Et j'avais repéré des détails. Et au cours de la prédication, au début de la prédication, j'avais fait monter sur l'estrade environ une dizaine d'enfants qui étaient là. Et j'avais dit à l'église, mais est-ce que vous voyez ce qui les caractérise? Alors ils ont cherché. Alors non, il y avait des garçons et des filles, donc ce n'est pas unisexe. Il y en avait qui avaient les cheveux longs, les cheveux courts, qui étaient en jean, qui étaient bien habillés. Hein. Ils ne trouvaient pas, ils ne trouvaient pas. Jusqu'à ce que je leur fasse remarquer que tous portaient des Nike. Ils portaient des Nike. Non pas que je sois un adepte des Nike, hein, que les enfants et les jeunes et que les parents ne s'inquiètent pas. Je ne suis pas là pour promouvoir des baskets qui valent 150 €. Hein. Non, non, c'est que Nike en grec, ça veut dire vaincre, avoir la victoire. Et c'était le leitmotiv de ces lettres aux églises, à celui qui vaincra. Est-ce que nous voulons être de ceux qui sommes victorieux en Christ? Cette église, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie. Et lorsque tu auras fait ça, tu écris aussi à Laodicée. Et nous voyons que ces sept églises sont très différentes. Il y en a qui sont fidèles, comme Éphèse et Philadelphie. Il vaut mieux être Éphèse et Philadelphie, hein, si vous relisez les sept églises. Après, il y en a qui sont sujettes à des fragilités, à des laissés-aller condamnables, qui ont un cœur partagé, et c'est peu dire. Vous avez Smyrne, Pergame, Thyatire et Laodicée. Et puis, vous avez le summum du summum, vous avez Sardes qui est jugée comme morte. Il y a encore un petit bout qui mouge, qui est un peu vivant. Mais voilà, toi, tu crois que tu es vivante, mais tu es morte. Hein. Donc, voilà, c'est une révélation particulière. Et pourtant, dans ces lettres aux sept églises, Dieu s'adresse à toutes ces églises, même celle qui est apparemment morte. On se dit, pourquoi perdre son temps? Hein? Eh bien, parce que c'est là la caractéristique de l'amour de Dieu et de sa grâce. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Ça veut dire s'il y a encore une espérance de vie, alors la parole de Dieu vient à notre rencontre pour ranimer, pour faire revivre, pour rendre vivant, pour ressusciter. Il est d'une nature, notre Dieu, qui s'efforce de proclamer la vie, quand bien même le destinataire n'aurait que l'apparence de la vie, mais serait déjà presque mort. « Sois vigilant, dit-il à Sardes, et affermis le reste qui est près de mourir. » Notre fils Christophe cherchait quelle voie donner à sa vie professionnelle et il nous a réveillés un samedi matin à 7 h du matin. On était contents, nous qui pensions faire la grâce matinée, en disant « Ça y est, j'ai trouvé !» « T'as trouvé quoi ?»« Ce que je veux faire de ma vie !»« Ah bon ? Tu veux faire quoi ?» Bah, il était aide-soignant pour gagner un peu sa vie dans une année sabbatique et tout à coup, en tant qu'aide-soignant, pendant la nuit, il avait participer à un acte de réanimation de quelqu'un qui était quasiment mort. Et puis, avec infirmier et médecin urgentiste, ils ont passé 3 quarts d'heure et la personne est revenue à la vie. Il a dit, c'est ça que je veux faire. Et il est devenu infirmier. Je me disais, il aurait pu le faire plus tôt et ça nous aurait coûté moins cher en étant à Lorient, mais bon, voilà. C'était à Genève. Non, à Lausanne. Comme quoi. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Christ est capable de rendre vivant ce qui est presque mort. Vous savez, c'est vrai aussi dans nos vies. Il y a des choses, quand on est seul face à soi-même, on s'y dit, mais c'est mort. C'est d'ailleurs une expression hein, qu'on utilise. Ouais, ça, c'est mort. Et on peut dire, en regardant son existence, oui, ça, c'est mort. Il n'y a plus d'espérance. C'est terminé, c'est fini. Et l'on est étonné de voir quelle est la puissance de résurrection qui se trouve en Jésus-Christ. Dès lors que nous laissons la vie de Christ agir en nous, et là, tout à coup, nous voyons que ce qui était mort, semblable au bâton de Aaron sous la tente de l'assignation, fleurir et porter du fruit en une seule nuit. Tu serais étonné, je serais étonné, quand en croyant que ce qui est mort en moi puisse revivre. Tu y crois? C'est possible. Pour les autres ? Pour les autres ? Je vais essayer de ne pas adopter ce que je commence à faire. J'ai pas entendu. Il y a tellement de chrétiens qui n'ont pas entendu la puissance de résurrection de Christ. On s'approche de Pâques. Est-ce que nous croyons à cela ? Le destinataire de cette lettre, c'est l'église de Philadelphie. Philadelphie a été fondée en 150 avant Jésus-Christ. Donc, lorsque Jean utilise cette image, il parle d'une ville qui est connue et qui a une particularité parce que cette ville fondée en 150 avant Jésus-Christ a été fondée par un homme qui s'appelait Attalus et qui aimait, respectait son frère. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Philadelphie, amour fraternel. Waouh ! Et en 17 de notre ère, donc pratiquement 50 ans avant que Jean écrive sa lettre, la ville a été détruite par un tremblement de terre. Et c'était un peu le problème de la ville de Philadelphie, c'est qu'elle était posée sur une zone avec des mouvements sismiques permanents. Et la ville a été sujette au tremblement de terre à de multiples reprises. Ça nous permet aussi de comprendre la promesse que Dieu adresse dans cette lettre à Philadelphie. Il dit à la fin, reste attaché à ce que tu as. Le vainqueur, Nikéo, le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour dans cette ville qui est ravagée par la destruction. Je ferai de toi une colonne. Tu peux peut-être penser que l'Église est bouleversée par des séismes permanents. Je te dis que l'Église restera comme une colonne au milieu du monde. Tu peux peut-être penser que dans ta vie, les tempêtes passent, les séismes traversent ton existence. Les circonstances et les conditions de ce que tu connais aujourd'hui te font dire que je ne tiendrai pas, je ne peux pas tenir, et pourtant Dieu te dit, je ferai de toi une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Est-ce que tu peux juste ouvrir ton cœur, ton intelligence et recevoir cette parole pour toi ? Cette église de Kevin, l'église de Christ en France, sera une colonne dans le sanctuaire de Dieu. C'est l'empereur Tibère qui a fait reconstruire la ville de Philadelphie en 17 et qui l'a appelée Nouvelle Césarée, une manière de rendre hommage au César qu'il était. Alors, la région de Philadelphie, elle était très propice à la culture de la vigne, et le dieu qui régnait principalement autour de Philadelphie, c'était Dionysos, le dieu du vin. Là aussi, autour de l'Église, il y a plein de dieux qui règnent dans ce monde qui nous entoure. Mais au sein de cette ville, il y avait une communauté de croyants qui tenait ferme face aux adorateurs de Dionysos. Aujourd'hui, 10 avril, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Je vous encourage à voter parce qu'il est juste et bon de voter. Et là aussi, de participer au choix de celui ou de celle qui, en fonction de vos convictions, sont appelés à diriger ce pays et aussi à donner à ce pays une orientation qui soit conforme à la pensée de Dieu. Et nous allons placer quelqu'un au palais de l'Élysée. Vous savez ce que c'est que le palais de l'Élysée dans la culture grecque ? C'est là où les dieux vivent. Et il y a quelqu'un qui aspire fortement à vivre là où on est Dieu, où l'on règne, on dirige, on décide. Prions pour que celui qui y accède puisse porter des valeurs qui soient celles du Seigneur, et qui permettent la poursuite de l'annonce de l'Évangile. Philadelphie était à 45 kilomètres de Sardes. Vous savez, cette église dont il est dit, tu crois que tu es vivante, mais tu es morte. Ça veut dire que Philadelphie-Sardes, c'est deux voisines. C'est étonnant quand même que l'une soit tellement encouragée, où Dieu lui dit, je connais tes œuvres, et voilà ce que tu vas être et demeurer. Et qu'à 45 kilomètres, vanne. Je dis vanne parce qu'en fait, dans le chapitre 1, il est dit « écrit à sept églises d'Asie », les fameuses sept églises. Et en fait, quand il utilise ce mot en grec, c'est tout simplement le mot « Orient ». Donc, écrit aux sept églises de l'Orient. Tout de suite, on se sent plus concerné. 45 kilomètres, c'est l'Orient vanne à peu près, hein, peut-être un peu moins. Eh bien, ils étaient côte à côte, et pourtant, il y en a une qui est morte et l'autre qui est vivante. Ça veut dire que, quelque part, leur condition de vie n'est ni meilleure ni pire, l'une par rapport à l'autre. Elles sont dans les mêmes circonstances, et ça veut dire que ce n'est pas l'emplacement qui fait de cette église une église victorieuse pour Philadelphie, ni pour l'autre une église qui est morte. C'est simplement la nature de cette église et les choix qu'elle fait par rapport à Christ. Qu'est-ce qui fait que nous soyons vivants? Qu'est-ce qui fait que nous soyons des chrétiens endormis ou morts? C'est les choix que nous faisons par rapport au Seigneur, sa puissance et son autorité dans nos vies. Peut-être que certains peuvent dire comme Sardes, « Oui, mais moi, je n'ai pas été béni comme Philadelphie. Moi, je n'ai pas eu les mêmes chances. » Autour de la table ces derniers jours, on a parlé avec mon frère, ma belle-sœur, mes frères et sœurs de qu'est-ce qui a fait que nos vies ont été différentes. On est huit frères et sœurs, nous étions huit frères et sœurs. Quatre sont chrétiens et vraiment vivent leur foi. Les quatre autres, on ne sait pas trop. Certains me surprennent, comme mon beau-frère qui m'a dit, voilà, je veux que la parole du Seigneur soit annoncée pendant les obsèques de ma femme. Qu'est-ce qui a fait cela? Et on s'est rappelé notre enfance quand, avec mon frère, on était enfermés dans une cité HLM. Je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas eu de maison ou d'appartement avec mes frères et sœurs et mes parents avant l'âge de 12 ans. Je ne sais pas si vous avez eu une maison familiale, un logement familial. Moi, on a découvert notre premier logement quand j'avais 12 ans. Et c'était en HLM. Et avec mon frère, on se disait, mais ça a été mortel. Ça a été pire même qu'avant, parce qu'on avait l'impression d'être en prison dans une cité HLM, sans espérance. La vie était déjà morte avant qu'elle ait commencé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et vous savez ce qui a fait la différence pour nous, pour certains dans ma fratrie, c'est qu'on habitait au premier étage d'un HLM, et au troisième étage, il y avait une famille dont les trois enfants allaient dans un groupe de jeunes tous les samedis, dans une église. Et à chaque fois qu'il nous voyait, ou en tout cas qu'il me voyait moi, assis sur les marches du hall qui donnait sur la rue où je regardais les voitures passer, où je regardais, c'est ce que me dit mon frère, on regardait la vie passer. Ces jeunes m'ont dit, écoute, le groupe de jeunes, il commence quand les jeunes ont 15 ans. Si tu le veux, quand tu as 15 ans, on t'emmène. J'ai compté les mois. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et le 9 avril, c'est-à-dire hier, quand j'ai eu 15 ans, le samedi suivant, j'ai dit « je peux ». Et là, j'ai découvert l'église, j'ai découvert des jeunes, j'ai découvert des hommes et des femmes qui avaient un fonctionnement totalement différent et surtout pour la première fois, j'ai entendu parler de Jésus-Christ. C'est ça qui a fait la différence. C'est cela. Et notre vie n'a plus jamais été la même, en tout cas pour moi et quelques-uns de ma famille. Pouvons-nous souligner que la ville de Philadelphie, je dirais, était la ville de l'amour fraternel? Est-ce que l'Église peut être aussi porteuse de cet ADN? Un espace d'amour fraternel En tout cas, moi, ce que j'ai vécu ces dernières semaines me fait dire que, en tout cas ici, à Kevin, c'est une réalité. C'est une réalité. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Est-ce que nous pouvons, là aussi, nous dire que c'est une réalité dont l'Église doit être porteuse? Ça doit être son ADN. Dans l'Acte chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans la communion fraternelle, koinonia, l'amour fraternel. On n'est pas une association de joyeux boulistes. On n'est pas, comme en France, une de ces associations qui se réunit pour le plaisir d'une activité. On est rassemblé par Christ. Et ce qui m'a semblé important dans le temps de prière et qui, moi, m'a fait prier, c'est que nous ayons le même Père. Que nous soyons appelés à le connaître, à le découvrir, mais ayant le même Père, avoir la même fraternité qui nous unit. Vous êtes très différents que moi. Moi, je suis à moitié vietnamien. Quand je regarde vos visages, je dis, il y en a, ils ne me ressemblent pas beaucoup physiquement. Et certains se disent peut-être maintenant, heureusement. Mais il y a un lien de fraternité parce que nous avons le même Père. Et que le sang de Christ a signé l'acte d'adoption qui est le nôtre. Amen. Pas de chance, Karine. T'es ma sœur. Faudra faire avec. Alléluia. La présentation du Seigneur dans cette lettre, c'est de dire « Il est le saint et le véritable ». C'est-à-dire que quelque part, on retrouve dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament cette nécessité de reconnaître Dieu et Christ comme celui qui est saint et celui qui est vrai. C'est notre proclamation. Alors, je sais que je ne vais pas convaincre l'évangéliste qu'est Jean-Louis. Il va proclamer, lui, dans toutes ses prédications, que Dieu, il est saint et il est vrai. Et tous les évangélistes le font. Mais est-ce que nous avons, nous aussi, ce message en nous de dire le saint, celui qui est le saint de Dieu? On le lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 24. Mais on le lit aussi dans les psaumes, comme le psaume 16, verset 10. L'Éternel ne permettra pas que son saint voie la corruption dans le séjour des morts. Et c'est une annonce messianique de la résurrection de Christ. Parce qu'il est saint. C'est la sainteté incarnée. Et il est vrai. Il y a des pharisiens, des hérodiens qui disaient « Tu es véritable, tu es vérité ». Il est dit que la lumière était la véritable qui éclaire tout homme venant au monde, Jean 1, 9. Et nous sommes dans le véritable par Jésus-Christ, dans la première épître de Jean, toujours le même, Jean au chapitre 5, verset 20. Donc la nature de Christ, c'est d'être saint et véritable. Voilà celui qui écrit à Philadelphie. Est-ce qu'il t'écrit aussi à toi? Est-ce que tu reconnais celui qui te parle comme étant le saint et le véritable? Il est dit, dans sa présentation à Philadelphie, il est celui qui porte les clés de David. Ça fait référence, en fait, à un texte d'Ésaïe, au chapitre 22, verset 20, où il y a un homme qui est présenté, qui s'appelle Éliakim. Et il vient remplacer un autre homme qui est destitué du fait de son infidélité. Il s'appelle Shebna, il est gouverneur du palais. Gouverneur, en fait, c'est pas simplement quelqu'un qui dirige un espace, c'est quasiment le premier ministre. Et il a la clé du palais du roi, c'est-à-dire c'est la clé. Alors, quand on dit une clé, il la porte sur son dos, hein, la clé. C'est pas la petite clé qu'on a sur notre porte-clé à la ceinture ou avec nos clés de voiture. Non, c'est une clé qu'on porte sur son épaule ou sur son dos. Il y a même des clés qu'on portait avec deux hommes, notamment pour les portes de la ville. Ce n'est pas des clés qu'on tourne, mais qu'on met avec des sortes de griffes et qui permettent de faire glisser le verrou. Eh bien, il est dit que Éliakim, fils d'Ilkia, vient remplacer un gouverneur injuste. Et les caractéristiques qu'il a, il est dit par Ésaïe, en termes prophétiques, ce Éliakim, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul le fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Cette parole d'Ésaïe est une parole messianique, prophétique et messianique. Elle ne parle pas simplement d'Éliakim qui vient remplacer quelqu'un d'injuste, d'un gouverneur injuste, mais elle parle de quelqu'un qui va prendre une place d'autorité dans la maison du roi et qui aura toutes les caractéristiques du Messie, à savoir une tunique, c'est-à-dire un vêtement, et vous connaissez la symbolique de la tunique de Christ faite d'un seul tissu, etc. Et on retrouve cela aussi pour Josué, le grand sacrificateur, revêtu d'une tunique pure, blanche, à la place de vêtements souillés. Eh bien, il est parlé ici d'une tunique, d'une ceinture, ce qui veut dire la puissance, la force, et puis je remettrai ton pouvoir entre ses mains, c'est-à-dire que de celui qui est infidèle, je le donnerai à celui qui est fidèle. Et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, et la clé de la maison de David, c'est tout simplement un symbole de l'autorité et du pouvoir de celui qui appartient à Dieu. Avoir la clé du palais de la maison du roi, c'est de donner accès et pas accès. Et lorsqu'il est parlé à Philadelphie, à l'église de Philadelphie, que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, la porte ouverte que personne ne peut fermer, eh bien, c'est cette possibilité que Christ donne, qu'il a. Ce qu'il ouvre reste ouvert, ce qu'il ferme sera fermé. Mais il donne à l'Église et aux croyants que nous sommes la possibilité de rendre ouvertes les choses de Dieu, le salut, la gloire de Dieu, sa présence, son accès. Mais à ceux qui restent infidèles, eh bien, il fait en sorte aussi que les choses demeurent fermées jusqu'à ce qu'ils acceptent l'autorité de Christ. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Alors, il dit, le prophète Ésaïe, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Ça a été souvent une image que j'ai eu du mal à comprendre. Parce que je me dis, un clou, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, j'en ai dans mon garage des clous, dans plein de boîtes. Elles sont pas tout à fait triées, donc j'ai des vis, des clous, etc. Mais j'ai des clous. Et un clou, c'est pas... Vous l'avez... Enfin, je pense pas que certains d'entre vous, et Pascal, rassure-moi, t'as pas mis tes clous dans un coffre-fort. Non, non, non. Tu y mets tes lingots, en général. Voilà. Mais les clous, c'est quelque chose d'insignifiant. Et il est dit ici, je le mettrai comme un clou dans un lieu sûr, c'est-à-dire dans un mur. C'est solide. Ça veut dire que, quelque part, Christ est insignifiant. Ésaïe dira, il a jailli du sol comme une racine, quelque chose qui n'avait pas de particularité, qui n'était pas particulièrement beau, il était insignifiant. Et pourtant, c'est devenu ce qui est source de salut pour l'univers et toutes les générations. Insignifiant qu'il était. Et je le mettrai sur le mur. Et pour mettre un clou sur un mur, sauf si vous êtes un bricoleur du dimanche comme moi, vous choisissez de mettre ça sur un mur qui est solide. Hein ? En général, le clou insignifiant devient ainsi porteur de quelque chose de plus beau, de plus agréable. Et en fait, les crochets ou les clous étaient sur l'épaule du gouverneur de la maison du roi, le moyen d'accrocher aussi la clé de David qui était lourde, de la porter sur son épaule. Et je me dis que cette clé, on approche de Pâques, Christ l'a portée sur son épaule. Du palais de Pilate jusqu'au mont Golgotha, il a porté cette clé qui va ouvrir les portes du salut. Et personne ne peut les fermer, ces portes-là. personne. Mais à ceux qui ne croient pas en Christ, cette porte demeure fermée jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux, le cœur sur ce que Christ est et a fait. Et puis il est dit, le clou enfoncé dans un yeux sûr, à un moment donné, sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. C'est une double annonce, à la fois de ce que va devenir Eliakim, qui lui-même va faire des choix personnels, mais aussi, c'est une annonce prophétique du Messie. Ce clou, effectivement, va être enlevé, arraché, mais ce qu'il portait sur les épaules sera tombé. On peut penser à l'œuvre de la rédemption qui est accomplie quand ce clou sera enlevé sur la croix, sera supprimé. Eh bien, de ses épaules tomberont tout le péché qu'il portait sur lui. Ce qui est ouvert ne pourra pas être fermé, ce qui est fermé le demeurera. Et cela parle pour l'Église de Philadelphie du service, du ministère, de l'évangélisation, du témoignage. Nous avons ce pouvoir en Christ d'ouvrir le salut à ceux qui nous entourent. Est-ce que nous en avons conscience de cette mission? Lorsque nous sommes assis dans un bus, est-ce que nous regardons celui ou celle qui est là en nous disant « J'ai la possibilité de lui ouvrir l'Évangile ?» Je raconte souvent ce témoignage, il y a une trentaine d'années, de deux jeunes qui étaient du côté du Crous à Lorient. Il y en a un qui était fils de pasteur et l'autre qui était un croyant, qui était un de ses amis, mais pas croyant du tout, et qui voit une voiture avec un poisson. Et il dit, mais c'est quoi ça? C'est un poissonnier qui a cette voiture? Et puis l'autre lui dit, mais non! Le poisson, c'est le signe des chrétiens. Là, tu vois, ça, c'est une voiture de chrétien. Et puis en discutant, il dit, bah, tu vois, si on mettait un mot avec notre numéro de téléphone, je suis sûr que les chrétiens nous appelleraient pour nous inviter à boire le café et puis nous parler. Puis l'autre lui dit, attends, tu plaisantes. Et ce fils de pasteur, il savait qu'il y avait une porte qui pouvait être ouverte aussi pour son ami. Alors, il a mis son numéro de téléphone, les chrétiens l'ont appelé, l'ont invité, et puis de fil en aiguille, ils sont venus dans notre maison, c'était dans la fin des années 80, où il n'y avait pas encore d'église, on avait une église de maison, et puis il s'est converti, et puis il a pris son baptême, et puis il est rentré chez lui pendant les vacances, et puis un soir, sous les halls d'un petit village où il était, il a expliqué à ses copines et à ses copains qu'il avait rencontré Christ, et il l'a dit notamment à une jeune fille qui était une de ses amies qui s'appelait Sabrina et qui lui a dit voilà, j'ai rencontré Christ, c'est quelque chose de fabuleux, et puis il a témoigné de sa foi. Elle est rentrée chez elle, elle a parlé à sa mère, elle a dit comment ça se fait qu'il a rencontré Christ, moi je suis chrétienne, j'ai jamais osé le faire, jamais, jamais, jamais. Et puis sa mère lui a dit, ah bon, mais où est-ce qu'il a vécu ça? Puis il lui explique, bah, à Lorient, dans une maison avec des chrétiens. Et puis sa mère lui dit, mais ce chrétien-là, il s'appelle pas Jean-Marc et sa femme Francine. Alors elle a dit, bah oui, comment tu sais ça? Il dit, bah, quand j'étais jeune, j'habitais au troisième étage et lui habitait au premier étage. Et à l'âge de 15 ans, je l'ai emmené à l'église. Nous avons la possibilité, parce que nous détenons ce pouvoir d'ouvrir les portes de l'éternité à ceux qui nous entourent. Qu'en faisons-nous? Je vais m'arrêter là, sur ce témoignage de Philadelphie, juste en terminant avec la promesse qui est faite aux vainqueurs. Parce que c'est la promesse qui vous est adressée, à vous et à moi. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. J'habite à Philadelphie, il y a des tremblements de terre tout le temps. Je ferai de toi une colonne. Même si le monde vacille autour de toi. Même si les autorités font en sorte que les choses ne soient pas faciles. Tes amis, tes proches. J'écrirai sur toi le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Donne-nous, nous aussi, en tant qu'Église, mais en tant aussi qu'enfants de ce Dieu vivant qui nous a rachetés, de manifester la même fidélité, d'être des vivants pour toi, d'être des colonnes pour toi, de pouvoir témoigner qui tu es, ce que tu es, d'entrer dans l'appel que tu nous adresses, d'être Philadelphie plutôt que Sardes. Tu connais nos œuvres, tu connais nos cœurs, Seigneur. Donne-nous la volonté, là aussi, d'entrer dans tes promesses et de les vivre. Parce que l'amour sans volonté d'aimer disparaît comme l'eau dans le sable. Mais l'amour avec la volonté d'aimer peut transformer le monde. Alors aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de glisser le bulletin de vote de notre volonté au plus profond de ton cœur, afin que véritablement, Seigneur, nous puissions vivre de ta vie. Amen.